Je vous salue tous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous voulons tous ensemble méditer la parole de Dieu avec l'aide du Saint-Esprit. Et comme vous le savez, notre Seigneur avait 12 disciples. Il avait choisi 12 disciples. Et chaque disciple avait sa personnalité, chaque disciple avait son caractère. Mais plusieurs étiquettes étaient collées sur certains d'entre eux. Nous pouvons citer par exemple l'apôtre Jean, où on dit que c'est le disciple que Jésus aimait. Nous pouvons citer l'apôtre Pierre pour son courage. Mais aussi, il porte cette étiquette-là, c'est lui qui a régné Christ 3 fois. Nous pouvons citer Thomas, par exemple. Nous pouvons citer Judas, qui porte l'étiquette de traître. C'est lui qui a trahi Christ. Et Thomas porte l'étiquette de celui qui a douté de la résurrection de Christ. Et nous pouvons citer tant d'autres parce qu'ils étaient au nombre des 12. Nous ne voulons pas allonger la liste. Ce matin, nous voulons parler, nous voulons partager ensemble, nous voulons méditer ensemble sur l'un de ses disciples, Thomas. Et l'étude de notre message ce matin, Thomas, le disciple qui a douté avant de croire. L'apôtre Thomas, le disciple qui a douté avant de croire. Prions le Seigneur. Seigneur, nous bénissons ta présence parmi nous et nous te disons merci pour ces moments merveilleux que tu nous as accordés pour que nous puissions partager librement ta parole, ce qui est difficilement possible dans d'autres lieux. Nous te disons merci pour cela. Nous te prions, Seigneur, de venir au secours de notre faiblesse, de notre insuffisance, et aide-nous, avec l'aide du Saint-Esprit, à comprendre ta parole. Ouvre nos yeux pour que nous puissions contempler tes merveilles et dispose nos cœurs pour que nous puissions garder et comprendre ta parole. Au nom de Christ, ton bien-aimé. Amen. Thomas, le disciple qui a douté avant de croire. Nous allons lire dans l'Évangile de Jean, au chapitre 20. L'Évangile de Jean, au chapitre 20. Nous allons lire le verset 19 à 20. Ensuite, nous lirons toujours le chapitre 20, mais de 24 à 29. L'Évangile de Jean, au chapitre 20, le verset, nous commençons par le verset 19 à 20. Jean chapitre 20, à partir du verset 19. Le soir de ce jour, donc le soir de la résurrection, le jour de la résurrection de Jésus-Christ, le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Et quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Toujours Jean, chapitre 20, mais à partir du verset 24. Le verset 24. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours après, les disciples de Jésus étant de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Amen. Voilà le passage que nous venons de lire. Il parle de la résurrection de Christ, de l'apparition de Christ auprès de ses disciples. Thomas est un disciple qui nous ressemble beaucoup, contrairement à ce que nous pouvons croire. Thomas est un disciple qui nous ressemble beaucoup. Des fois, il est découragé, paniqué, plein de doutes. Mais des fois aussi, Thomas est un disciple courageux, plein d'assurance et prêt à servir et à mourir avec Christ. Vous savez, dans notre vie chrétienne, nous sommes parfois confrontés à des moments d'hésitation. Nous nous posons certaines questions. Nous passons par des moments où nous avons des doutes sur certaines choses, avouons-les. On flotte ainsi entre la foi et le doute. On remet en question des fois certaines promesses même de Dieu. On remet en question des fois la parole de Dieu. Et on doute des fois parce qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas. Et on doute des fois parce qu'on a du mal à accepter certaines choses aussi. Mais le doute peut avoir de mauvaises conséquences dans notre vie chrétienne, car il touche notre foi. Il touche notre foi et notre confiance en Dieu. Parce qu'il sera difficile de nous appuyer sur le Seigneur et de compter sur lui en toutes choses si nous avons des doutes en nous. La parole de Dieu dit, dans Jacques 1, 6, celui qui doute au sujet des promesses et des paroles de Dieu est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Et Jacques continue au verset 8, toujours du chapitre 1, il n'y a pas de vie chrétienne, c'est un homme, donc celui qui doute, c'est un homme irrésolu et inconstant dans toutes ses voies. Un homme irrésolu et inconstant dans toutes ses voies. Il n'y a pas de vie chrétienne, comme nous sommes tous là, soyons honnêtes envers nous-mêmes. Il n'y a pas de vie chrétienne qui ne passe par des moments de doute et d'hésitation. Mais la foi qui surmonte le doute, cette foi devient solide, inébranlable. Et dans la vie de Thomas, nous voyons comment le doute a affecté sa marche avec le Seigneur. Thomas a dû faire face à ce problème. Mais Thomas a su aussi résoudre ce problème de doute. Souvent, quand on parle de l'apôtre Thomas, on reste en tête avec cette idée de celui qui doute. C'est cette étiquette qui est collée sur lui. C'est lui qui doute. Mais, chers frères et sœurs, Thomas, c'est quelqu'un qui croyait en Jésus. Thomas aimait le Seigneur Jésus-Christ. Thomas avait reconnu, il reconnaissait Jésus-Christ comme le Fils de Dieu. Et comme on l'a dit tout à l'heure, il était courageux et prêt à suivre Jésus et à mourir pour Christ. Mais le problème de Thomas, sa foi, comment je peux dire ça, sa foi, en fait, sa foi avait un champ d'action limité. Donc, c'est comme s'il était limité. Donc, sa foi avait un champ d'action limité. Au-delà de ces champs, il ne pouvait plus voir grand-chose. Il avait un champ, sa foi avait un champ d'action, s'il faut retenir ce terme, sa foi avait un champ d'action très, très limité. Vous savez, dans Jean chapitre 1, n'ouvrez pas vos Bibles, dans Jean chapitre 11, le verset 7 à 8, un exemple du courage, un exemple du courage de Thomas, un exemple de ce que Thomas a fait. Il était prêt pour mourir avec Jésus-Christ. Dans Jean chapitre 11, le verset 7 à 8, lorsque le Seigneur Jésus a appris que Lazare est malade, Jésus dit à ses disciples qu'il veut aller auprès de lui, à Béthanie, en Judée. Les disciples, hésitants et craintifs, pourquoi ils hésitaient? Pourquoi ils étaient craintifs? Parce qu'ils étaient conscients du danger que Jésus courait en retournant en Judée. Les disciples lui dirent, mais Rabbi, les Juifs tout récemment te cherchaient pour te lapider, pour te faire mourir, et tu retournes en Judée. On te cherche là-bas. On te cherche là-bas, on voulait te lapider, on voulait te faire mourir. Et toi maintenant, tu dis que tu retournes là-bas parce que Lazare est malade. C'est une pilule peut-être pour les disciples qui ne passaient pas, ils ne comprenaient pas. Mais non, mais il va se livrer. Donc, c'est un non-sens. Tu sais bien que le danger, il est là, mais tu y vas quand même, tu veux y aller. Mais regardons le verset 16, si on peut lire ça. Jean 11, verset 16. Qu'est-ce que Thomas leur a dit? Pour voir le courage de Thomas. Jean 11, le verset 16. Jean 11, le verset 16. Qu'est-ce que Thomas dit à Jésus-Christ et aux autres disciples? Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, « Allons aussi afin de mourir avec lui. » Quel courage! Quel courage! C'est lui sur qui on colle l'étiquette de douteur, mais c'est lui qui encourage les autres. Non, allons aussi avec le Seigneur pour mourir avec lui. C'est Thomas qui a pris l'initiative et proposa aux autres disciples craintifs. Les autres avaient peur de retourner en Judée. Mais Thomas, il dit, on y va. Il les motive, il les encourage. Allons-y pour mourir avec Christ. Nous voyons bien que Thomas, c'est un disciple courageux. Thomas, c'est un disciple qui aime servir le Seigneur jusqu'au point d'accepter de mourir avec lui. Donc nous voyons en lui, en Thomas, un disciple courageux, décidé à suivre le Christ, et obligeant même les autres disciples à sortir de leur peur. Thomas se disait prêt à mourir avec Christ. Mais il n'y avait pas seulement Thomas qui avait dit « Je suis prêt à mourir avec Christ ». Pierre et les autres disciples aussi firent la même déclaration plus tard, plus loin. Mais nous connaissons la suite. Mais nous savons que tous, ils ont abandonné Jésus. Tous, ils ont abandonné Jésus au moment de son arrestation, et ses sauveurs, y compris Thomas. Alors qu'il disait que je suis prêt à mourir avec toi. C'est lui qui a encouragé les autres. Il a montré l'exemple. Il a dit, moi, je suis un homme, comme on dit chez nous. Je suis un homme. On y va. On va mourir avec lui. Mais à la fin, quand on avait arrêté Jésus, tous sont partis. Même Thomas, entre guillemets le courageux, il s'est sauvé. La volonté de Thomas et sa détermination est un exemple à suivre quand même. Parce que dire aux frères et sœurs, on y va même s'il y a du danger, c'est un exemple à suivre. C'est un exemple à suivre. Nous voyons par là son attachement, par cet acte, nous voyons son attachement au Seigneur et son courage. Mais Thomas n'a pas compris qu'il ne peut subir le même sort que Jésus-Christ. Il dit, allons-y et mourir avec lui. Son champ d'action, le champ d'action de sa foi était limité. Thomas n'avait pas compris qu'il ne peut pas subir le même sort que Jésus-Christ, qui doit souffrir et mourir en tant qu'agneau de Dieu. Thomas ne pouvait pas mourir comme agneau de Dieu. C'est Christ qui devait mourir comme agneau de Dieu. Et plus loin encore, nous voyons encore des doutes et des hésitations de Thomas. Lorsque Jésus dit à ses disciples, c'est un passage que nous connaissons très bien dans Jean chapitre 14, nous connaissons très bien ce passage à partir du verset 1. Lorsque Jésus dit à ses disciples, lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Alors encore Thomas lui dit, mais Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Et pourtant le Seigneur avait déjà dit clairement aux disciples, il leur avait annoncé clairement avant où il allait. Dans Jean 7, 33, nous lisons, Jésus a dit à ses disciples, je suis encore avec vous pour un peu de temps, mais je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Malgré cette parole, cet enseignement que Christ leur a donné, mais pour Thomas, sa foi était un peu... Son champ d'action était limité. Les pensées de Thomas étaient limitées. Pourquoi les pensées de Thomas étaient limitées? Parce que ses pensées étaient fixées sur leur espérance pour Israël. Ils croyaient que c'est Christ qui allait leur libérer du joug colonial, s'il faut dire cela, à l'époque. Thomas avait cette pensée-là, il pensait ça. Leur espérance, leurs yeux étaient fixés sur leur espérance pour Israël. Et ils ne voyaient pas au-delà d'Israël. C'est que Israël, c'est lui le roi, c'est lui qui va leur délivrer. Voilà, ils étaient focalisés seulement sur ça. Mais en réponse à la question de Thomas, Jésus lui dit, moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Par cette question de Thomas, qui dit que nous ne savons où tu vas, comment pouvons-nous en savoir le chemin? La question de Thomas nous montre son niveau de compréhension de la parole de Dieu. Son niveau de compréhension de la parole de Dieu. Alors que Jésus leur avait déjà enseigné qu'il est avec eux pour peu de temps et ensuite il va vers celui qu'il a envoyé. Et quand il dit à Thomas que je m'en vais vous préparer une place et quand je viendrai vous prendre afin que vous soyez là où moi je serai. Thomas dit, mais Nous ne savons pas le chemin. Nous ne savons pas le chemin. Dans notre vie chrétienne, il y a aussi certaines choses que nous ne comprenons pas. Ne nous voilons pas la face. Il y a certaines choses que nous ne comprenons pas. Nous lisons la Bible, mais des fois nous ne comprenons pas. Ou des fois, nous avons des doutes et des hésitations. Mais, chers frères et sœurs, nous pouvons venir vers le Seigneur. Nous pouvons venir au Seigneur et lui dire, « Seigneur, je ne comprends pas. Aide-moi à comprendre. Seigneur, je ne comprends pas. Aide-moi à comprendre. » Christ a aidé Thomas, malgré qu'il leur avait déjà dit où il allait. Mais quand Thomas a dit que nous ne connaissons pas le chemin, nous ne savons pas où tu vas, Christ l'a aidé. Il a dit, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. S'il y a des choses que nous ne comprenons pas, s'il y a des choses qui nous semblent floues, s'il y a des choses qui nous semblent difficiles, ou s'il y a des choses qu'on a du mal à accepter, venons auprès du Seigneur, humblement. Tu dis à ton Seigneur, Seigneur, je ne comprends pas. Explique-moi, aide-moi. Le Seigneur t'ouvrira les yeux et tu comprendras. Ne reste pas dans tes doutes. Ne reste pas dans tes inquiétudes. Parce que Christ n'a pas laissé Thomas dans ses inquiétudes, dans ses hésitations, dans son incompréhension. Christ a dit à Thomas, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. En venant humblement auprès du Seigneur, avec cette honnêteté, cette franchise de parler au Seigneur que je ne comprends pas, aide-moi, nous allons nous placer ainsi dans une attitude de celui qui attend la lumière et la force de celui qui est à mesure de nous les donner, notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu connaît nos faiblesses, Dieu connaît nos manquements, Dieu connaît notre incapacité. Il est capable de nous secourir si nous lui exprimons nos doutes et nos hésitations. L'apôtre Pierre qui s'enfonçait dans l'eau, nous connaissons bien l'histoire. Et quand l'apôtre Pierre voyait qu'il commençait à s'enfoncer dans l'eau, qu'est-ce qu'il a fait? Il a crié, au secours, Seigneur! Il a crié, au secours, le Seigneur! Et le Seigneur ne l'a pas laissé dans cet état. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Le Seigneur lui a secouru, lui a tendu la main et lui a dit, homme de peu de foi, pourquoi tu as douté? Homme de peu de foi, pourquoi tu as douté? Que ça soit aussi pareil pour nous. Quand tu vois que vraiment ça ne va pas, crie au secours au Seigneur. Crie au secours au Seigneur. Le Seigneur ne te laissera pas dans tes ne te laissera pas dans cet état-là. Il viendra à ton secours. Comme a fait Pierre, il viendra à ton secours. Même si le Seigneur te dit, homme de peu de foi, pourquoi tu as douté? Mais il t'a secouru quand même d'abord. Après, il te dit, homme de peu de foi, pourquoi tu as douté? Il ne te laissera pas comme ça. Et ensuite, quand tu vas surmonter ces doutes, ces hésitations, ta foi deviendra solide. Thomas a refusé de croire à la résurrection de Christ avant d'avoir vu la marque du clou sur ses mains. Il ne veut croire à la résurrection de Christ que s'il constate personnellement que le Christ est vivant. On essaie un peu d'entrer dans le raisonnement de Thomas. Admettons, c'est moi Thomas. J'essaie un peu de mettre dans sa place. Qu'est-ce qu'il se disait quoi dans sa tête? Il se disait peut-être, moi, Thomas, j'ai de la peine à croire à la résurrection de Christ. Il me faut de preuves pour croire. Même voir Christ, moi, Thomas, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, voir Christ, ça ne suffit pas. Il faut que je touche ses plaies. J'essaie d'entrer dans la tête de Thomas. Voir Christ, ça ne suffit pas. Il faut que je touche ses plaies. Il faut que je voie là où on l'a percé. Il faut que je voie des marques, des clous dans ses mains. Il ne veut pas faire confiance. Et pire encore, Thomas ne veut pas faire confiance au témoignage des autres disciples. Nous l'avons lu au verset 25 du chapitre 20 de Jean. Les autres disciples, au verset 25 du chapitre 20 de Jean, les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, comme disent les Portugais, « Nada, si je ne vois pas, moi je ne crois pas. » Et voir Christ ne suffit pas, il faut que je le touche. Comme ça, moi j'ai la preuve. J'ai la preuve que c'est lui. Donc, il ne veut pas faire confiance au témoignage des autres disciples qui lui dirent que nous avons vu le Seigneur. Et il se disait peut-être en lui-même, si nous rentrons dans Thomas, il se disait peut-être en lui-même, c'est les autres disciples qui ne veulent pas accepter que Christ est mort. C'est eux qui ne veulent pas accepter que oui, réellement, Jésus-Christ est mort. C'est eux. C'est pas moi. C'est eux qui ne comprennent pas la réalité des choses. Ils ont donc tort. C'est comme ça qu'il réfléchissait. Il dit, c'est eux, c'est pas moi. C'est eux qui ne veulent pas comprendre. Pourquoi nous disons cela? Parce qu'à l'époque, les Juifs n'acceptaient pas la notion de résurrection des morts. Et l'idée qu'un mort soit de retour parmi les vivants était quelque chose de difficile à croire pour eux à l'époque. L'idée qu'un mort est revenu à la vie, c'était quelque chose de difficile à croire. Et je pense que le doute de Thomas va dans le même sens des difficultés qu'avaient les deux disciples sur le chemin de Maüs. Ils avaient aussi cette difficulté de reconnaître Jésus. Et pourtant, Jésus marchait avec eux. Mais ils avaient des difficultés de reconnaître Jésus-Christ. Ils étaient tout tristes, les deux disciples, sur le chemin d'Emmaüs. Ils s'entretenaient de tout ce qui s'est passé. Et la parole de Dieu nous dit que quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre. Ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les disciples, ne fallait-il pas que le Christ souffrît ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Ce n'est qu'après, quand Jésus leur a parlé, que leurs yeux sont ouverts. Et ils ont compris que c'était Christ. Pourquoi? Parce qu'ils avaient déjà cet arrière-plan pour eux qu'ils acceptaient difficilement l'idée, la notion de la résurrection. Et Thomas veut s'appuyer sur ce qu'il voit, donc sur le visible, avant de croire. Il veut s'appuyer sur le visible, ce qu'il voit. Il manque de confiance dans le témoignage des autres disciples, parce que ses frères lui ont dit que nous avons vu le Christ nous a apparu, lui n'acceptait pas leur témoignage, et il n'a même pas de confiance dans la parole de Christ, parce que Christ leur avait dit que je ressusciterai le troisième jour. Malgré cela, malgré la parole de Dieu, malgré la parole de Jésus-Christ, Thomas n'avait pas toujours confiance. Vous savez, Se focaliser sur le visible, c'est quelque chose qui est contraire à la foi. Parce que la Bible nous définit la foi dans Hébreux chapitre 11 et le verset 1 comme ceci. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais Thomas, lui, il veut s'appuyer, non pas sur l'invisible, mais il veut s'appuyer sur le visible, sur ce qu'il voit. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de choses comme ça. Beaucoup de personnes, nous nous comportons comme ça. D'où l'expression en français qui dit que moi je fais les saint Thomas. Hein. Moi, c'est les saint Thomas. Tant que je n'ai pas vu, je ne crois pas. Dans beaucoup de choses, dans beaucoup de cas, dans beaucoup de situations, il y a beaucoup de gens qui disent ça. Ici, c'est une expression qui est... Vous pouvez même le trouver dans le dictionnaire français, je crois. Je n'ai pas cherché, mais je pense. Il fait les saint Thomas. Quelqu'un qui fait les saint Thomas. Donc, tant qu'il n'a pas vu, il ne croit pas. Et ça me rappelle un ami qui avait un petit souci au pays. Et bon, il fallait de l'argent, beaucoup d'argent. Il est allé à la banque pour solliciter un petit crédit. Le banquier lui a fait des papiers, il a signé tout ça, tout ça. Après, il est rentré. Après, on l'a croisé, dit, mais ça va, mais comment ça se passe? Parce qu'on était tous, en tout cas, on compatissait avec lui, parce que c'était un problème très sérieux. Alors, comment? Elle dit, oui, j'ai été à la banque, on a signé, mais le conseiller m'a dit, il faut attendre 4-5 jours. Je lui dis, mais ça va, c'est bon. Elle dit, non. Moi, je suis saint Thomas. Tant que ce n'est pas encore passé sur mon compte, je ne crois pas. Il veut s'appuyer sur le visible. Bien qu'il a signé tout le papier, dit, tant que l'argent n'est pas encore viré sur mon compte, je ne crois pas que j'ai obtenu ce crédit. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et si nous lisons le livre d'Hébreux, au chapitre 11, nous avons toute une liste de nos aînés dans la foi. Eux, ils ne se sont pas basés sur le visible, mais ils se sont basés sur l'invisible. Et à la maison, vous pouvez lire le chapitre 11 de Hébreux. Ça va vous encourager, chers frères et sœurs. C'est encourageant de voir cela. C'est encourageant. Thomas était absent lorsque Jésus est apparu pour la première fois. Nous l'avons lu au verset 19. Quand Jésus est apparu pour la première fois, Thomas n'était pas là. Il n'était pas avec les autres disciples. Il était dans son coin parce qu'il avait peur d'être arrêté par les Juifs comme les autres disciples. C'est vrai, tous les disciples, ils avaient peur. C'est pour cela qu'ils s'enfermaient même dans la maison. Ils s'enfermaient. Ils restaient fermés. Ils avaient peur que les Juifs puissent venir les arrêter et leur faire subir le même sort que Jésus-Christ. Ils avaient peur. Mais Thomas, au lieu de rester avec les autres frères, Thomas dit, peut-être rester là-bas avec eux, c'est encore trop risqué. Moi, il faut que je sois à part dans mon petit coin, tranquillos, c'est mieux que d'être avec eux. Quand Christ est à Paris, pour la première fois, Thomas n'était pas là. Mais la parole de Dieu nous dit, Jésus va se présenter au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Verset 19, chapitre 20. La paix soit avec vous. Jésus a rassuré ses disciples afin de calmer leurs craintes, car ils étaient tristes, découragés et se posaient certainement beaucoup de questions. Christ a consolé ses disciples. Mais Thomas a manqué cette consolation. Thomas a raté ce moment d'encouragement. Thomas a raté ce moment de réconfort de la part du Seigneur parce qu'il n'était pas ensemble avec les autres. Parce qu'il n'était pas ensemble avec les autres. Il était absent. La raison de son absence n'est pas dite dans la Bible, mais Tout ce que nous savons, que Thomas n'était pas là quand Jésus a apparu auprès de ses disciples pour la première fois. Thomas a raté plusieurs choses quand Jésus est apparu pour la première fois. Il a raté la présence de Christ ressuscité. Il a raté de voir la présence de Christ ressuscité. Thomas a manqué la consolation de Jésus-Christ ressuscité. Thomas a manqué même de recevoir la paix de Christ ressuscité. Parce que quand Christ leur a apparu, il leur a dit « Que la paix soit avec vous. » Thomas a manqué de recevoir cette paix. Thomas a raté aussi la joie qu'avaient d'autres disciples. Parce qu'au verset 20, il nous est dit « Et quand il y dit cela, Jésus leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. » Voilà tout ce que Thomas a manqué. Tout cela pourquoi? Parce qu'il était absent. Et pire encore, la prochaine apparition de Jésus-Christ, c'était dans 8 jours, quand Jésus a apparu, c'était dans 8 jours. Et les autres disciples étaient là et Thomas était là. Et partant de sa première apparition jusqu'à sa deuxième apparition, il y a 8 jours, les 8 jours, Thomas a manqué la joie, le calme. Parce que les autres disciples étaient calmes, ils n'avaient plus crainte, ils n'avaient plus peur, parce qu'ils ont vu le Seigneur et le Seigneur leur a donné la paix et la joie. Et ils étaient dans la joie. Donc, en d'autres termes, Thomas, la crainte et la peur de Thomas a continué pendant 8 jours par rapport aux autres disciples. Parce qu'il a manqué la première apparition de Christ. Il a souffert encore, Thomas a souffert 8 jours en plus par rapport aux autres disciples. Parce qu'il n'était pas ensemble avec les autres. Chers frères et sœurs, vous savez, parfois la disparition d'un être cher dans nos vies, dans nos familles, quelqu'un que nous aimons beaucoup, ou peut-être la perte d'un emploi, ou peut-être les problèmes. Il y a toujours des problèmes dans ce monde. Nous amène des fois à nous poser beaucoup de questions. Nous sommes des fois révoltés et on s'est dit, pourquoi ça m'arrive? Pourquoi ça m'arrive à moi? Et vous savez, des fois, comment nous réagissons? Nous avons tendance de chercher la solitude. Nous avons tendance d'être seuls avec nos doutes, avec nos soucis, avec nos souffrances. On se replie sur soi-même. Et comme on dit, on reste dans son coin, on n'a pas envie de voir les autres. On n'a plus envie de se réunir avec les autres. Nous ne voulons plus être ensemble avec les frères et sœurs. Il y a certains qui disent, non, j'ai pris un peu de distance pour un petit temps. Et bien, Thomas aussi avait pris des distances pour certains temps. Mais si nous réagissons de cette manière, nous réagissons comme Thomas. Et si nous réagissons comme Thomas, chers frères et sœurs, pendant ces moments difficiles, pendant ce moment où nous avons besoin vraiment du soutien de notre Seigneur, nous risquons de rater aussi la présence encourageante de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous risquons de rater sa consolation. Nous risquons de rater sa paix et sa joie parce qu'on n'est plus ensemble avec les autres. On n'est plus ensemble avec les autres. On ne veut plus être ensemble avec les autres. Jésus vient à la rencontre de ses disciples pour calmer leur peur et leur crainte, bien que les portes étaient fermées. Les portes étaient fermées, les fenêtres étaient fermées, tout était fermé. Mais Jésus est entré dans la maison pour calmer leur crainte et leur peur. Le même Christ ressuscité qui vit aujourd'hui, le même Seigneur, le même Jésus, est aussi capable de calmer ta peur, ta crainte aujourd'hui, si tu lui fais confiance. si tu lui fais confiance. C'est pour cela, frères, sœurs et sœurs, nous devons toujours chercher la présence du Seigneur parmi nos frères et sœurs. Parmi nos frères et sœurs. Nous croyons à la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. D'ailleurs, c'est lui-même qui a dit que là où deux ou trois se réunissent en mon nom, moi, je suis au milieu d'eux. Mais toi, tu es tout seul, hein? Mais quand on est ensemble, il y a la présence du Seigneur Jésus-Christ qui est là. Les disciples étaient ensemble, ils ont vu la présence du Seigneur, de Christ ressuscité. Thomas était tout seul dans son coin, n'a pas vu pour la première fois la présence du Christ ressuscité. Et il a manqué plein de choses. Oui, car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Matthieu 18, 20. Thomas veut croire, veut voir pour croire, pardon. Thomas veut voir pour croire. Mais la rencontre de Jésus ressuscité avec Thomas nous rappelle aussi une rencontre de Jésus avec Nathanaël. La rencontre de Jésus avec Thomas nous rappelle aussi la première rencontre de Jésus avec Nathanaël sous le figuier. Nathanaël avait aussi des doutes quand Philippe lui a dit « Nous avons trouvé le Messie en Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ, nous avons trouvé. » L'apôtre Pierre avait reconnu Jésus-Christ comme étant le Fils de Dieu. Nathanaël a reconnu Jésus-Christ, il a dit « Tu es le Fils de Dieu. » Mais Thomas va plus loin que Pierre. Thomas va plus loin que Nathanaël. Thomas l'appelle mon Dieu. Thomas l'appelle mon Dieu. C'est lui qui doutait. Regarde, il a fait un bond de grand. Un bond de foi, de grand. Il appelle mon Dieu. C'est un bon témoignage de la divinité de Christ. Afin que, comme dit la Bible, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent leur Père, et celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas celui qui l'a envoyé. Lorsque Thomas a vu ce que la croix a fait à Jésus-Christ, lorsqu'il a vu les marques et ses blessures, les doutes de Thomas s'est enfoui et il a cru. Mais nous aussi, frères et sœurs, lorsque nous regardons à la croix, lorsque nous voyons jusqu'où il est allé, notre Seigneur, par amour pour nous, lorsque nous voyons cet amour, nous ne pouvons que lui faire confiance. Nous ne pouvons que croire en lui. Jésus-Christ est ressuscité, il est présent dans nos vies. Comme pour les disciples, sa présence transforme des vies. Elle nous fait passer de la peur à la paix, comme ce fut le cas des disciples. Elle nous fait passer de la peur à la paix, de la tristesse à la joie, du doute à la foi grandissante comme Thomas, de l'obscurité à la lumière et de la mort à la vie. C'est lui qui a douté, c'est lui à qui on a collé l'étiquette du douteur. Et maintenant, celui-là appelle maintenant le Seigneur Jésus, mon Dieu. Jésus approuve sa foi. Jésus approuve la foi de Thomas et lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont point vu et qui ont cru. Voilà comment cette histoire de Thomas se termine. Un peu plus loin, peut-être dans le verset 21, nous verrons encore Thomas dans le chapitre 21, nous verrons encore Thomas qui fait partie du groupe des sept disciples auxquels Jésus-Christ se manifeste près de la mer de Tibériade en Galilée. Il avait participé à la pêche miraculeuse, Thomas était avec eux. Mais pour finir de ce doute de Thomas, Jésus-Christ a reconnu la foi de Thomas. Mais il lui a dit, heureux ceux qui n'ont point vu et qui ont cru. Nous, nous n'avons pas vu, mais nous croyons en lui. C'est une grâce que nous avons. Mais pour finir, nous allons conclure par ce passage biblique dans 1 Pierre. 1 Pierre au chapitre 1. Pierre au chapitre 1 et le verset 8 à 9. Pierre chapitre 1, verset 8 à 9. Jésus que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.